Alors, on n'est pas très nombreux ce matin parce que c'est le mois d'août, parce que, entre autres, on va mettre ça sur le dos du mois d'août. Chaque année, c'est un peu la même chose d'ailleurs. Voilà ce que je lis dans l'Écriture. Ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ça se trouve dans 1 Thessaloniciens, parole de l'apôtre Paul. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Là, il est question de ceux qui dorment, et de ceux qui sont décédés. D'ailleurs, dans la version, je crois, seconde 21, ou dans la version du sommeur, il est question de ceux qui sont décédés, comme ça que c'est traduit. C'est vrai que dans l'Écriture, parfois, c'est le même mot qui est employé pour dormir ou pour décéder. Alors, je voudrais tout de suite vous mettre au courant, mais je pense que vous êtes au courant, qu'il n'est pas question de ceux qu'une fois qu'on est décédé, on dort. Il y a des gens qui voudraient bien dormir. Hein. Et en fin de compte, une fois qu'on est décédé, c'est un petit peu comme quand, avant qu'on soit né, on ne sait pas ce qui s'est passé, et on ne sait pas ce qui va se passer après. Mais ce n'est pas du tout ce que l'Écriture a dit. L'Écriture nous dit bien au contraire. D'ailleurs, si je me souviens bien, quand Étienne, vous savez, Étienne, quand il a été lapidé dans Luc, dans Actes des Apôtres, il nous a dit, une fois qu'il a été lapidé, il n'a pas été mort. Il s'est endormi. C'est le même mot qui est employé ici. Et d'ailleurs, dans Jean, au chapitre 11, quand il est question de Lazare, vous savez, Lazare, le frère de Marthe et de Marie, et puis Lazare était endormi, où il était décédé. Et au chapitre 11 de Jean, il nous a dit, c'est Jésus qui parle, et il dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du soleil. C'est le même mot qui était employé. Donc il y a eu un petit doute, en quelque sorte, dans l'esprit de ceux qui écoutaient Jésus. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc il ne faut pas que nous ayons d'interrogation, en tout cas en ce qui concerne ça. Car si Thessaloniciens nous parle entre autres du retour de Jésus-Christ, il ne faut pas oublier que la croix, c'est le centre de l'humanité. Les hommes sont nés, les hommes ont été créés, Adam a été créé, jusqu'à maintenant, le point central, c'est la mort de Christ. Alors vous allez me dire, c'est la mort et la résurrection, oui. Et comme je dis souvent, si la résurrection est réelle, c'est que la mort a été réelle. Il ne peut pas y avoir l'un sans l'autre. Et d'ailleurs, toute l'Écriture nous parle de la mort de Christ. Si on enlève la mort de Christ et le fait que le Seigneur a envoyé son Fils unique, eh bien, il va rester juste la couverture de la Bible. On peut tout enlever. On peut enlever la mort de Christ. La Bible n'existe plus. Parce que de la Genèse, chapitre 3, verset 15, jusqu'à l'Apocalypse, au retour de Christ, eh bien, il est question de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jean-Baptiste, dans Jean, chapitre 1er, verset 29, disait, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà ce qu'est Christ. Il ôte le péché. Il ne le couvre pas comme dans l'Ancien Testament, on voyait que le sacrifice des animaux était là pour couvrir, et donc ils étaient obligés de recommencer chaque année, hein, chaque fois, sur la mort des animaux. Mais Christ, lui, il n'a pas couvert notre péché. Il a ôté notre péché. Et aujourd'hui, si nous sommes purs, c'est parce que Christ a ôté notre péché. Alors, quand Christ est décédé sur la croix, il était 15 ans, à peu près. Et d'ailleurs, Joseph d'Arimathée a dit, voilà, est-ce que je peux prendre le corps de Christ pour l'emmener dans le sépulcre que j'avais, en fin de compte? Parce que s'ils avaient attendu un petit peu trop, on arrivait au moment du sabbat, et alors là, impossible de toucher au corps de Christ. Et le corps de Christ a resté sur la croix. Mais le corps de Christ n'est pas resté sur la croix. Il a été mis dans le tombeau, et il est ensuite, 3 jours après, ressuscité. D'ailleurs, dans Actes au chapitre 2 et au verset 27, c'est le discours de Pierre, d'ailleurs, et Pierre dit comme cela, il cite David, il cite entre autres le psaume 49 de David, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. C'est donc une prophétie messianique, comme il y en a des dizaines et des dizaines. Alors, où est le séjour des morts? Est-ce qu'il est au ciel? Quand on lit l'Ancien Testament, David dit souvent, je descendrai dans ce jour. Et il y a cette, je ne sais pas si c'est cette image, mais il y a cette réalité que le séjour des morts, il est en bas. Il est dans la terre. Dans la terre, on ne connaît pas grand-chose de la terre. On sait qu'elle fait 40 000 km de circonférence, je crois, à peu près. Mais quand on creuse un petit peu, ou quand on va chercher loin, en fin de compte, on va pas très loin. On est vraiment dans l'écorce de la terre. Quand je ne sais pas le séjour des morts, je ne suis pas allé. Mais celui qui nous en parle le mieux, c'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même. Et c'est pour ça que, Fabien, tu peux mettre aussi les versets ici, c'est dans Luc, au chapitre 16, et à partir du verset 19. Voilà. C'est une parabole. Alors, une parabole, ce n'est pas une fable, et ce n'est pas non plus une légende. Une légende, c'est une histoire imaginaire, avec des lutins, des dragons, on raconte, alors des légendes, il en existe des mille et des cents dans chaque pays. Telle forme de rocher, eh bien, c'est une légende. La légende dit la tête de l'homme endormi. Vous connaissez ceux qui sont de Martinique. Alors, on parle d'une légende, d'une histoire imaginée. On pense qu'il y a quelque temps, un dragon ou quelqu'un d'autre a imaginé quelque chose. Dernièrement, j'écoutais des informations à la télévision, parlait du côté de Saint-Brieuc, du côté de Brest, plus exactement, sur la côte. Là-bas, on parle de la côte des légendes. Alors, il y a des pierres, en Bretagne, il y a beaucoup de pierres le long de la mer. Alors, il y a des pierres qui représentent ceci, la tête de cela. Alors, la légende dit que... Alors, on invente des légendes inimaginables. Les fables, on connaît tous les fables de La Fontaine, qui sont, ceci dit, intéressant, le lièvre et la tortue, maître corbeau sur un arbre perché, enfin, je me souviens plus très bien, j'ai appris ça quand j'étais petit à l'école, mais bon, les histoires sont, oui, pourquoi pas agréables, mais la parabole, c'est différent. Les paraboles sont des histoires vraies qui racontent des des réalités spirituelles vraies, des histoires vraies qui racontent des histoires spirituelles vraies. Et Jésus a souvent employé des paraboles, même que les disciples parfois ne comprenaient pas toujours. Ah, tu nous parles en parabole, mais on ne comprend pas. Maintenant, tu nous parles plus en parabole, on comprend mieux. Alors voilà, entre autres, dans Luc chapitre 16, verset 19, voici ce qui nous est dit. Il y avait un, c'est Jésus qui parle, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Alors cet homme était quelqu'un de riche, déjà, quelqu'un qui avait de bons habits, parce que pourpre et de fin lin, ça correspondait à ce que les rois portaient à l'époque, et en plus, il menait une vie joyeuse et brillante. Alors, on s'imagine ce qu'on veut, mais on suppose que cet homme était en train de... tous les jours, il faisait un repas extravagant, il consultait son compte en banque, il n'y avait pas de problème, il avait tout ce qu'il fallait, son grenier était rempli de blé. En tout cas, tout lui souriait. Verset 20, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert de sel. Ah, il y a une différence. Il y a deux extrémités, là. Je ne veux pas dire que parce que cet homme était riche, il avait tout. Il était, que tous les riches sont identiques. Ce n'est pas du tout ce que l'Écriture nous dit. Un pauvre était couvert, était couché à sa porte, couvert de sel, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Alors là, c'était vraiment pire que, je veux dire, même pire qu'un SDF. Il n'avait rien. Non seulement il n'avait pas de maison, puisqu'il était à la porte de cet homme, de ce riche, mais il n'avait rien. Il n'avait pas mangé. S'il pouvait se rassasier des miettes, il était, comme malheureusement beaucoup de gens, il était malade. Et il avait des ulcères. Verset 22, le pauvre mourut et il fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. » Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Et maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. Consolé. Et toi, tu souffres. Il y a un contraste dans ce jour des morts. Il y a un contraste entre ce que Lazare est en train de vivre, la consolation, et ce que le riche est en train de vivre la souffrance. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte, quand ce riche s'est adressé à Abraham, il lui a dit, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Je me suis posé cette question. Je dis, mais je ne comprends pas très bien, parce que quelques versets avant, il nous a dit que le riche a été enseveli. Donc je suppose qu'il avait un tombeau, oui, où on l'avait mis dans le tombeau. Alors peut-être qu'à cette époque-là, les pierres tombales n'existaient pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a des belles pierres tombales, hein, quand on va dans les cimetières, bon, on ne va pas se promener, mais bon, on constate certaines tombes qui sont de belles tombes. Il y a même parfois des choses qui sont agréables à lire sur les tombes. Les versets bibliques, il n'y en a pas beaucoup. J'ai remarqué ça, j'en ai lu un une fois, je ne me souviens plus lequel c'était, mais bon, c'était un message d'espérance que la personne qui était en tirée là voulait laisser en fin de compte. C'est probablement ce que le riche fait. Et puis, le comment Lazare, il a été enseveli aussi, son corps physiquement, il a été mis, je ne sais pas à l'époque si on parlait de comment oui, enfin, d'endroit où on mettait un petit peu tout le monde. Il est ici, consolé, et toi tu souffres. C'est-à-dire que l'âme même de la personne, elle est toujours dans cette souffrance. C'est-à-dire que le corps physique n'existe plus, mais l'âme existe toujours. Et il y a ici on voit que le riche, en fin de compte, il souffre assis à droite pour mettre simplement le doigt dans de l'eau et venir me le mettre sur la bouche. D'ailleurs, il y a entre vous, verset 26, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Alors, dans le séjour de mort, ce que Christ dit, il y a le lieu de tourment, de souffrance, et il y a le séjour, le sein d'Abraham. Et entre les deux, il y a un abîme. Il n'y a pas d'autre endroit où on peut aller. En tout cas, ce n'est pas ce que Christ dit et ce n'est pas ce que la Bible dit. Il y a un endroit de consolation et un endroit de souffrance. Il y a un séjour. On pourra appeler ça l'enfer, puisque le mot enfer est venu bien plus tard dans la pensée des hommes. L'enfer. Et d'un côté, c'est le seul endroit où il est cité le sein d'Abraham. Alors on va y venir. Pourquoi ? On va dire pourquoi. Mais entre les deux, il y a un grand abîme. Ce que je remarque dans l'Écriture aussi, c'est que celui qui est dans le séjour des morts parle, le riche parle, Abraham, qui est de l'autre côté, entend. Et quand Abraham parle au riche, le riche entend. C'est-à-dire qu'il y a un abîme, sans doute, puisque l'un ne peut pas passer vers l'autre et l'autre ne peut pas passer vers l'un, mais la parole, elle peut passer. C'est en tout cas ce que l'Écriture nous laisse entendre. On nous laisse penser. Mais il n'y a rien d'autre. Alors les hommes ont vers 1100, un truc comme ça, 1100, ils ont inventé le purgatoire. Un endroit où on purge. Vous savez, je me suis un petit peu renseigné quand même, j'en ai entendu quand j'étais plus jeune, plus gamin, hein, puisque je suis originaire aussi de ces églises-là. Eh bien, le purgatoire, en fin de compte, c'est un endroit temporaire. C'est un endroit temporaire entre le ciel, le paradis, et puis l'enfer. Mais ceux qui sont au purgatoire ne vont pas en enfer. Ils sont là, ils attendent. Et on espère que pendant le temps qu'ils attendent, ils vont purger, en fin de compte, leur paix. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Je l'ai entendu de la part d'un pasteur. Quand il était jeune, enfant, il savait lire, mais il était d'origine catholique, pour ne pas dire le mot, Et à la fin de, à la sortie de l'église, il y avait un trou, vous savez, avec un, où on met des petites pièces à l'intérieur, où les billets se font. Et dessus, c'était marqué, pour les âmes qui sont au purgatoire. Et comme cet enfant n'était pas bête, il s'est dit, mais alors, comment ils font pour leur donner? Vous savez, des fois, les pensées des enfants, ils ont dit sur ce que l'on veut, sur ce que l'on peut dire. Verset, je sais où j'en étais. 27, non? Ah oui, verset 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur cesse ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Ah, ils étaient manchés exagérés, hein, à cette époque-là. Même dans ces jours-là, même dans ceux qui n'étaient pas dans le sein d'Abraham, j'ai 5 frères, oh, surtout qu'ils ne viennent pas ici, parce que je souffre cruellement. Abraham a répondu, et ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Aujourd'hui, on pourrait dire, mais ils ont la Bible. Qu'ils lisent la Bible. Qu'ils lisent l'Ancien Testament. Qu'ils lisent les prophéties. Qu'ils acceptent Christ. Et il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts en ressusciterait. On parle de, je vous ai parlé tout à l'heure de Lazare, c'est pas le même Lazare. Mais Lazare, le frère de Marie et de Marthe, quand il est revenu à la vie, parce que Christ l'a revenu à la vie, il a passé plusieurs jours décédé, les Juifs n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Ils ont même dit que, concernant Christ, tu es prêt à le tuer, à le tuer lui-même, il raconte des bêtises, il ne l'a pas ressuscité. Ils n'ont pas cru à la résurrection de Christ. Ce que Abraham veut dire dans ce passage, en tout cas, c'est que la justice de Dieu, elle est parfaite. On ne discute pas la justice de Dieu. La justice de Dieu est juste. A priori, cet homme a été mis dans le séjour des morts. Et celui est, Lazare a été mis dans le sein d'Abraham. On ne peut pas passer d'un côté vers l'autre. On peut inventer un purgatoire, mais il n'existe pas, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Christ n'a jamais parlé d'un endroit, on va dire, secondaire. D'ailleurs, dans Matthieu, vous connaissez bien ce passage, il y a des gens qui disent « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas entendu chasser des démons ?» Il dit « Retirez-vous, je ne vous connais pas. » Alors, je suis à peu près certain, d'après ce que l'Écriture nous dit, qu'il y a des gens qui sont dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment, et qui disent « Seigneur, on a cru en toi ?» On a même chassé des démons en ton nom. Et le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Alors, on parle d'enfer et on parle de paradis. Est-ce que nous allons dans le sein d'Abraham? Non. D'ailleurs, dans l'Écriture, il faut penser à ça. C'est que pour les Juifs, le mot paradis n'a pas la même signification que pour nous. Nous, aujourd'hui, quand on parle de paradis, à quoi on pense? À la présence du Seigneur. enfin, dans la présence du Seigneur. Et d'ailleurs, avec le mot paradis, on invente des îles paradisiaques. Ça, c'est pour les gens qui ne sont jamais allés, qui n'ont vu que des images à la télévision. On parle du paradis des glaces. Pareil qu'il y a certains magasins qui s'appellent le paradis des glaces. On invente le mot paradis en fin de compte par toutes sortes de choses. Mais pour les Juifs, le paradis, c'était pas ça. Le paradis, c'était dans ces journées-là ce que le Seigneur a appelé le sein d'Abraham. C'est l'espérance que le comment, que David avait, que l'Ancien Testament avait, je sais que mon Rédempteur, je vais dans un temps d'attente, en fin de compte. Mais le plus bel exemple, c'est dans Luc, au chapitre 23, et au verset 43. Rappelez-vous, le brigand sur la croix. Vous savez, le brigand, alors je ne sais pas si c'est le numéro 1 ou le numéro 2, mais il y avait deux brigands qui étaient de chaque côté de Jésus. Un qui s'est tourné vers Christ et un autre qui ne s'est pas tourné vers Christ. Le premier, il a dit, ben voilà, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Un beau message que ce brigand a donné. Et Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est quoi le paradis? Sinon, le sein d'Abraham. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que dans 1 Pierre, au chapitre 3, et je crois au chapitre 4 aussi, il nous est dit que Christ est allé prêcher à ceux qui étaient en attente, en fait, dans le sein d'Abraham. Il est allé prêcher ici, et il est allé leur dire quoi? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Christ est mort. Parce que les gens de l'Ancien Testament attendaient le Messie. Ils attendaient. Quand on lit les prophéties messianiques, c'en est rempli. Nous, aujourd'hui, on comprend mieux. Les apôtres ont mieux compris. Pierre, Paul, Jacques, Jean, ils ont mieux compris les prophéties de l'Ancien Testament, et nous-mêmes, aujourd'hui, on les comprend mieux, les prophéties messianiques. Mais les gens de l'Ancien Testament ne comprenaient pas toujours tout. Même les prophètes, ils ont prophétisé, j'allais dire presque, sans rien comprendre, sans saisir. Quand, par exemple, il est dit que le Christ, c'est David qui dit ça, quand il a eu les mains et les pieds percés, ça n'existait pas, c'était pas là. On ne savait pas ce que c'était, cette souffrance. Cette souffrance allait arriver simplement avec les Romains, au temps de Christ, où il sait comment ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés. Mais dans l'Ancien Testament, on ne connaissait pas ça. Alors qu'est-ce que le Seigneur est allé dire dans le sein d'Abraham. Il est allé dire, à mon avis, je ne sais pas, mais je me doute dans ce qu'il a prêché. Il est allé leur dire la dernière phrase qu'il a dite sur Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit avant de donner son guérison, avant qu'on puisse lui dire qu'il était vraiment mort? Il a dit tout. Et quand il est allé voir David, Abraham, Jacob, enfin, je ne veux pas les citer tous, les Esther, Ruth, tous ceux qu'il a retrouvés, et Lazare, qu'il a retrouvé ici, dans le sein d'Abraham, il est allé leur prêcher en disant, tout est accompli. Parce que la mort de Christ, comme je l'ai dit au début, c'est le centre de l'humanité tout entière. Avant Christ, on regardait droit devant, et maintenant on regarde ce que Christ a accompli. La croix de Christ, c'est le centre de l'humanité. Et d'ailleurs, quand Jésus est ressuscité 3 jours après. Il a rencontré le long de son roche. C'est Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Il a rencontré plusieurs personnes. Il a rencontré entre autres une dame qui s'appelait Marie. Marie de Magdala. Et je cherche le verset. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit quand Marie a reconnu, enfin, vous savez, j'ai plus le verset en tête, mais quand Jésus s'est adressé à Marie, Marie pensait que c'était un jardinier, qui venait, et Jésus a simplement dit, Marie. Marie s'est retournée, et là, elle a reconnu que c'était Christ. Elle lui a dit, Maître. Et Jésus lui dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté en mon Père. C'est-à-dire que quand Christ est ressuscité 3 jours après sa mort, il n'était pas encore monté vers son Père. Le corps de Christ physique, il avait été mis au départ dans un tombeau, mais l'âme de Christ, la personne même de Christ, elle n'était pas encore montée vers son Père. Et je pense que dans le séjour dans le sein d'Abraham, quand Christ est apparu, il aura dit, regardez mes mains, regardez mes pieds, je suis mort pour vous. Alors bien sûr, peut-être que le corps n'y était plus en même temps, comme pour Lazare, comme pour le riche, le corps n'était pas, mais l'âme était là. Et quand l'âme est là, en fin de compte, les manifestations se voient aussi. C'est en tout cas ce que je comprends. Donc qu'on me dise le contraire, je... Victoire, mort, où est ton aiguillon? Dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il nous est dit que les autorités même ont été chamboulées, ont été détruites complètement quand mort et quand les dominations et les autorités ont vu Christ mort sur la croix. Genèse, chapitre 3, verset 15. Oui, Dieu est grand. Dieu est grand. Et le diable, il est vaincu. Le diable est vaincu. Et il sait qu'il a été vaincu. Et il a été vaincu quand? À la croix. À la croix. Et c'est pourquoi, pour nous, aujourd'hui, nous nous réjouissons, en quelque sorte, de ce que le diable a été vaincu et de ce que Christ a été fidèle jusqu'au bout. Alors, la question, bien sûr, qu'on se pose, et que je me suis posée, est où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Est-ce que la mort de Christ et la résurrection de Christ a tout changé? Dans Jean, au chapitre 3, et au verset 13, Jésus dira « Personne n'est monté au ciel. » C'est-à-dire que, quand Christ a prononcé cette phrase-là, Jean, chapitre 3, verset 13, « Personne n'est monté au ciel. » David n'est pas monté. Abraham n'est pas monté. Tous les anciens qui sont cités dans Hébreux, chapitre 11, ne sont pas montés au ciel. Tous ceux qui ont attendu avec espérance par la foi le Seigneur, qui ont cru au Seigneur dans l'Ancien Testament, ne sont pas montés au ciel. Ils étaient en attente, quelque part, dans le saint, ce que Jésus emploie, le saint d'Abraham, qu'on pourrait dire aussi dans le séjour des morts. Mais voilà, dans le séjour des morts, il y a deux endroits, un endroit où on est consolé et un endroit où on souffre. Et aujourd'hui, tout est accompli. Tout est accompli. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira dans 2 Corinthiens que nous préférons demeurer auprès du Seigneur. Nous préférons demeurer auprès du Seigneur. Paul, dans Philippiens aussi, au chapitre 1er, il espère être avec le Seigneur. Et vous savez que pour nous, c'est un grand exemple que le Seigneur nous donne. On voit que il y a un passage un petit peu oublié de lequel, mais enfin, il est dit que le Christ a emmené les personnes de l'Ancien Testament, il les a emmenées vers le ciel, vers le Père. Et pourquoi ils ne pouvaient pas y aller avant? Ça se comprend. Ils pensaient un instant que si Christ n'était pas mort sur la croix, c'est-à-dire que si tout n'était pas accompli, on ne peut pas arriver avec quelqu'un qui n'est pas pardonné, qui est pécheur, dans la présence de Dieu. C'est impossible. La présence de Dieu, elle existe sans péché. Elle existe sans... Et nous-mêmes, nous pouvons aller dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes pardonnés. D'ailleurs, dans Éphésiens, chapitre... il faut le lire, je crois, dans Éphésiens, chapitre... voilà ce qu'il est dit. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est par la grâce qu'il nous a sauvés. « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. » C'est-à-dire que physiquement, nous sommes assis sur des chaises, mais spirituellement, nous sommes assis dans le ciel avec Christ. Pourquoi? Parce que Christ a tout accompli. Et quand on accepte le Seigneur Jésus, le Seigneur nous déclare juste. Il fait de nous... Oui, il nous déclare juste, il nous fait de nous de ses disciples, ses enfants, ses fils, et il nous fait asseoir avec lui spirituellement dans les cieux célestes. Et c'est pourquoi, c'est ce que le chrétien nous dit, lorsque nous décédons, je vais dire, c'est un moment de joie. Pour celui qui monte au ciel, c'est ce que l'apôtre Paul dira, je préfère mille fois aller à la rencontre du Seigneur que de rester sur cette terre. Et si le Seigneur préfère que je reste là encore un peu de temps, je reste encore un peu de temps. Mais je préférerais être dans la présence du Christ. Et quand on arrive dans la présence du Christ, qu'est-ce qui se passe? On est consolé avec le Seigneur. Et sans doute que il y a un exemple qui est donné dans Actes, au chapitre 7, et au verset 55. C'est un grand exemple qui nous est donné ici. Actes, chapitre 7, et verset 55. C'est la mort de Dieu. Vous savez, Dieu, pourquoi il est mort et comment il est mort? Il a été lapidé. Heureusement qu'on ne connaît pas trop ce que était la lapidation maintenant, mais à cette époque-là, quand quelqu'un était lapidé, peut-être du sénétage, je ne sais pas, les gens se mettaient tout autour. On ramassait, pourquoi pas des petites pierres comme il y a ici, mais des gros cailloux. Et on les jetait sur la personne, en espérant, des fois bien visé, soit la tête, soit le corps, soit différentes parties de la personne, et cette personne décédait d'une mort atroce que la mort d'Étienne. Et alors que Étienne allait être lapidé, il est dit au verset 55, « Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris, se bouchant les oreilles ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Ah, si vous avez prêté attention à ces versets. Il a regardé vers le ciel. Parce qu'il savait qu'il allait décéder dans la minute qui vient. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Christ. Mais comment était Christ? Il était venu. Souvent, on pense que Christ est assis à la droite de Dieu Père. C'est vrai, parce que l'Écriture le dit. Mais quand quelqu'un est en train de se, oui, en train de vivre ces derniers moments, et qui regarde vers Christ, qui regarde vers le ciel, il voit Christ debout. Et c'est dit deux fois, au verset 55 et 56, il a vu Christ debout. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? S'il y a quelqu'un qui doit venir chez vous, que vous n'avez pas vu depuis des années et des années, que vous attendez avec insistance. Et puis que d'un seul coup, on vous dit, voilà, votre ami est arrivé. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous levez. Vous ne restez pas assis dans le canapé à attendre que le moment passe. Vous vous levez, vous allez à sa rencontre et vous le serrez dans ses bras. Quand Christ a vu Pierre, il s'est levé. Et il l'a connu. Parce que c'est la personne même de Christ qui fait ça. Quand Nicolas ira à la rencontre du Seigneur, ça arrivera un jour, à moins que le Seigneur revienne avant, comme on dit. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura beaucoup de joie pour Nicolas, qui ira dans la présence du Seigneur, il y en a peut-être un petit peu moins pour nous, qui resteront ici. D'ailleurs, Jésus a pleuré aussi quand Lazare a décédé. C'est un sentiment normal, ça. Mais quand notre frère ira à la rencontre du Seigneur, et que l'ange dira, Bianco Nicolas, tu as été fidèle en toute chose. Rentre dans la joie de ton être. Je pense que tu en rentreras. Alors j'ai pris l'exemple de Nicolas, j'aurais pu prendre l'exemple de quelqu'un d'autre, hein, c'est pas le cas de. Alors bien sûr, il y aura Nicolas avec. Excuse-moi Nicolas. Tu me comprendras avec ses péchés. Mais les péchés de Nicolas, ils seront pardonnés parce que tout a été accompli. Et notre frère, même si dans le corps, on a toujours nos péchés, mais nous sommes justes aux yeux de Dieu parce que tout a été accompli. Quand on sera au ciel, il y aura a priori beaucoup de joie. C'est pour ça que dans Éphésiens, chapitre 4, verset 7, je vous ai dit tout à l'heure, il nous a dit que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Nous sommes déjà assis. Et je vais terminer avec un verset que vous connaissez tous, qu'on cite souvent, Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin que Christ. Il n'y a pas d'autre chemin que Christ pour aller au ciel. Parce que un jour, le Seigneur reviendra, c'est la parole que Dieu nous a donnée dans ce sens. Mais le seul chemin pour aller à la rencontre de Christ, à la rencontre du Seigneur, c'est Christ. Christ est mort sur la croix. J'accepte qu'il est mort sur la croix. J'accepte que cette mort me sauve du péché, me libère du péché. Et Christ est de nouveau le chemin, le seul chemin pour un désir.